France Culture.
Le journal, Aurore Richard, bonsoir Aurore.
Bonsoir à toutes et tous. Un trio de poids lourds européens, Airbus, Thales et Leonardo, tous ont décidé d'unir leurs forces dans le domaine des satellites avec pour ambition de créer un champion européen face à la concurrence écrasante d'Elon Musk. On y revient dans un instant avec Valentin Grille. Total Energy partiellement condamné pour de la désinformation verte. La justice française s'est prononcée aujourd'hui après avoir été saisie en 2022 par trois ONG, dont Greenpeace France. L'environnement aussi au programme du Parlement européen aujourd'hui. Les 27 vont-ils confirmer leurs ambitions écologiques? On fait le point dans le journal avec Fabien Cazot. Et puis au Proche-Orient, l'annexion de la Cisjordanie par Israël n'arrivera pas. Ce sont les mots de Donald Trump et ceux de son vice-président, très en colère alors que le Parlement israélien a voté de façon préliminaire cette disposition. Face à la domination d'Elon Musk dans l'espace avec Starlink, trois poids lourds européens ont signé ce matin un protocole d'accord en vue de fusionner leurs activités dans les satellites, un méga projet entre Airbus, Thales et Leonardo. Le chiffre d'affaires attendu pour ce champion européen est déjà évalué à 6,5 milliards d'euros. Cette nouvelle entité pourrait être opérationnelle dès 2027, à condition que la Commission européenne donne son feu vert. Et selon le trio d'industriels, il va employer 25 000 personnes à travers l'Europe. Valentin Gris, bonsoir.
Bonsoir Aurore.
Les syndicats estiment de leur côté que cette fusion n'était pas nécessaire et pire, hein, qu'il en résultera de la casse sociale.
Dès le mois de juillet, la CGT alertait sur ce projet Bromo, nom de code de ce rapprochement, d'autant que Thales avait déjà annoncé en mars 2024 la suppression de 980 postes et c'est même pire pour Airbus Defence and Space avec 2500 départs étalés entre octobre 2024 et l'été prochain. Thomas Ménadier est délégué CGT à Thales, il récapitule ce qu'il estime être le plan des directions.
Cette fusion, elle se fait en trois temps. Il y a un premier temps qui était le plan de suppression de postes qui est en cours chez Thales Alenia Space et chez Airbus Defence and Space. Le deuxième temps, c'est l'annonce d'aujourd'hui qui les permet à la direction de dire qu'elle fait une fusion des activités spatiales de ces trois groupes sans faire de plan de suppression de postes. Et puis, dans un horizon de 3 à 5 ans, arrivera un nouveau plan de suppression de postes avec des suppressions de sites.
Car des doublons vont apparaître pendant la fusion. Les directions évoquent d'ailleurs 500 millions d'euros d'économies faites tous les ans grâce à l'opération, des coupes qu'elle juge nécessaires pour se protéger de la concurrente américaine Starlink et acter l'évolution du marché des satellites vers la connectivité Internet. En face, les syndicats répliquent, le marché continue à croître, même si plus faiblement. Ils défendent aussi l'idée que Thales et Airbus sont très dominants dans la production de satellites flexibles, sorte de couteau suisse, mais ces derniers peinent à sortir des usines et coûtent cher, selon plusieurs observateurs indépendants. Thomas Ménadier souligne qu'il s'agit aussi d'imposer un quasi-monopole sur les marchés publics, qui représente 80% du secteur.
Ça va permettre d'augmenter les prix. Sur un horizon court, en fait, ils vont, au niveau européen, pouvoir marger plus fortement sur les projets qui sont lancés par les agences, notamment, ou par les États.
Une crainte partagée, cette fois, par l'Agence spatiale européenne. Nous devrons faire en sorte de maintenir une concurrence, avertissait il y a quelques jours son président, Joseph Aschbacher.
Merci Valentin Grille. C'est une décision inédite et même historique selon les termes de certains défenseurs de l'environnement. La compagnie pétrolière Total Energy a été partiellement condamnée par la justice française pour pratiques commerciales trompeuses, pour avoir fait de fausses promesses climatiques dans ses campagnes de communication. C'est ce qu'on appelle en anglais le greenwashing et en français la désinformation verte. Le tribunal qui a été saisi par les ONG Greenpeace France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous a rejeté en revanche les demandes des associations concernant les allégations de Total Energy sur le gaz fossile et les agrocarburants. Cette procédure, Guillaume Fariol, constitue un tournant pour ces ONG.
Total Energy a bien affiché de fausses ambitions environnementales, tranche le tribunal judiciaire de Paris. Sur Internet, le groupe se présente comme un acteur majeur de la transition énergétique et promet d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sauf qu'il prévoit aussi, toujours, d'ouvrir de nouveaux projets pétroliers et gaziers. De quoi induire en erreur le consommateur, selon la justice. Elle demande à Total de retirer ses messages de son site. Les sanctions financières, quelques dizaines de milliers d'euros, elles, restent anecdotiques pour le géant de l'énergie. La victoire est surtout symbolique, se félicite Justine Ripoll de l'ONG Notre Affaire à tous.
C'est un premier pas vers la fin de l'impunité aussi des majors pétro-gazières. Ça fait depuis les années 70 qu'ils savent que leurs activités sont à l'origine du réchauffement climatique. Ça fait des décennies qu'ils empêchent toute forme de régulation. Ça va devenir beaucoup plus difficile pour eux aujourd'hui d'affirmer ces choses-là.
Greenpeace, de son côté, salue un tournant pour la lutte contre le greenwashing. Ce jugement pourrait ouvrir la voie à des procédures similaires partout dans le monde contre les autres grandes entreprises pétrogazières.
L'écologie à l'échelle européenne cette fois, avec cette réunion des 27 au Parlement européen. Vont-ils renoncer à certaines de leurs ambitions climatiques alors que les enjeux industriels et financiers sont de plus en plus prégnants pour l'Europe? Des ambitions dont les échéances se rapprochent. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
En tête, l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves dans l'UE à partir de 2035 et cet objectif commun aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2040.
Oui, et c'est justement cet objectif qui fait le plus débat, poussé par ceux qui pensent qu'il faut poser un jalon entre l'objectif moins 55% d'émissions en 2030 et le zéro émission en 2050, un jalon intermédiaire, pourquoi pas, mais à condition, estime notamment la France, d'expliquer comment on compte y arriver. Paris veut notamment promouvoir son expertise dans le domaine du nucléaire décarboné. Ces discussions sur le climat s'intègrent dans une discussion plus large qui a lieu en ce moment même, mêlant environnement et compétitivité, comme l'a notamment résumé le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en arrivant aujourd'hui au Conseil européen.
La transition écologique fait consensus sur son objectif final de neutralité carbone en 2050. Mais nous devons nous assurer que cette transition n'entrave pas la compétitivité de nos industries. Le mot-clé, c'est la flexibilité. Nous devons aller vite. Mais nous devons aussi donner plus de temps à certaines technologies qui ne sont pas encore assez mûres ou qui coûtent beaucoup d'argent.
Les Européens veulent se montrer à la fois ambitieux et réalistes, une ligne d'équilibre difficile à tenir à moins d'un mois de la COP30 qui se tiendra au Brésil.
Fabien Cazot avec Fabien Gosset aux moyens techniques. La France et son budget, la partie recette du projet de loi de finances arrive demain dans l'hémicycle. Alors qu'elle a largement été rejetée la nuit dernière en commission des finances, les députés examineront la version initiale du texte et personne ne sait à quoi ressemblera ce budget au final s'il est voté. Un budget Frankenstein selon la France Insoumise qui a présenté son contre-budget hier autour de la taxation des plus riches et des grandes entreprises. Autour ce matin du Rassemblement national de présenter son contre-budget. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
L'URN est toujours à la recherche d'une crédibilité économique.
Oui, on est désormais assez loin de la sortie de l'euro laissée de côté en 2019 puis abandonnée en 2022, mais les programmes économiques du RN sont rarement considérés par les économistes comme fiables. De plus en plus gênant, à l'heure où le patron du RN, Jordan Bardella, veut séduire les entreprises, à l'heure où le RN ne veut plus donner prise à l'argument des Républicains qui veulent se distinguer aujourd'hui par l'économie et qualifie les mesures des programmes RN à gauche de la gauche pour ces questions. À l'heure où le RN veut attirer les électeurs de droite, mais aussi certains de ses cadres.
Et il en résulte un budget dans lequel le RN dit vouloir faire plus d'économies que le gouvernement.
Voilà, 36 milliards d'euros d'économies avec cette particularité, c'est que ce budget contient 50 milliards de baisse des dépenses et 14 milliards de baisse des recettes. Une forte baisse des dépenses qu'assure le député Jean-Philippe Tanguy, qui dit assumer, Jean-Philippe Tanguy, le spécialiste des finances publiques au RN. Le RN veut cibler, dit-il, le train de vie de l'État et les dépenses inefficaces. On citera près de 9 milliards de baisse de la contribution française à l'Union européenne, plus de 7 milliards et demi économisés sur les agences de l'État et les opérateurs, ainsi que la baisse de l'aide publique au développement. Le RN qui cible l'immigration, 12 milliards d'euros, dont la moitié récupérée via la conditionnalité des prestations de solidarité pour les étrangers. Le parti d'extrême droite veut également économiser 3 milliards d'euros de subventions aux associations qui ne relèveraient pas, dit Marine Le Pen, de l'intérêt général, qui prend en exemple SOS Méditerranée, qui vient en aide aux migrants. Côté recettes, si le RN est désormais contre la taxe Zucman et la taxation des ultra-riches, le RN propose toujours son impôt sur la fortune financière. Surtout, le parti soutient sur le papier la politique de l'offre et donc affiche un geste vis-à-vis des entreprises, une baisse des impôts de production de plus de 16 milliards d'euros.
Merci Nicolas Baluch. Nicolas Sarkozy s'apprête à passer sa troisième nuit à la prison de la Santé avec dans la cellule voisine deux policiers dont la mission est d'assurer la sécurité de l'ancien président de la République. Eu égard à justifier le ministre de l'Intérieur à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui. Mais pour le syndicat d'agents pénitentiaires UFA-PUNSA Justice, ce dispositif est insensé et constitue une humiliation pour tout le corps pénitentiaire. Le syndicat rappelle que la sécurité des prisons dépend du ministère de la Justice. Son secrétaire national, Wilfried Funk, exige le retrait de ces policiers armés.
On considère ça comme étant très méprisant parce que oui, on a aujourd'hui des équipes de sécurité pénitentiaire. La prison de la Santé est dotée d'une équipe locale de sécurité et nous avons encore au-dessus le niveau supérieur avec nos équipes régionales d'intervention et de sécurité, nos fameuses ZERIS, qui interviennent sur des situations beaucoup plus tendues, beaucoup plus compliquées et notamment les extractions que la police s'est bien empressée de bien vouloir redistribuer à l'administration pénitentiaire, prétextant que c'était une charge indue pour eux. On peut pas tenir de double discours. Soit effectivement les prisons sont gérées par les personnels pénitentiaires, quel que soit le profil du détenu, et on a besoin d'avoir les moyens matériels, financiers, humains pour pouvoir assurer pleinement toutes ces missions, ou soit on n'est pas capable de le faire. Et en ce cas-là, je conseille à Monsieur Laurent Nunez d'aller envoyer tout de suite les compagnies républicaines de sécurité prendre la place des personnels pénitentiaires aux étages dans les prisons françaises.
Un des propos recueillis par Anne Fauquemberg. Au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain Marc Rubio a atterri en Israël où il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Marco Rubio, qui a estimé un peu plus tôt que le vote au Parlement israélien de projet de loi visant à annexer la Cisjordanie menacerait la trêve. C'est dans ce contexte que ces discussions ont bien eu lieu à la Knesset lors de la visite de Jede Vance en Israël. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Aurore, bonsoir à tous.
Le vice-président américain se dit aujourd'hui insulté.
Oui, alors grosse colère donc du vice-président américain. C'est au pied de son avion que Jede Vance a indiqué de manière peu diplomatique ce qu'il pensait du vote préliminaire du Parlement israélien sur l'annexion de la Cisjordanie.
Quelqu'un m'a dit que le vote était un coup politique sans signification pratique, purement symbolique. Si c'est le cas, c'était un coup politique très stupide et je le prends personnellement comme une insulte. La Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël.
Et si les choses n'étaient pas assez claires, le président américain lui-même s'est exprimé sur le sujet. Dans une interview à Time Magazine, Donald Trump répète que l'annexion de la Cisjordanie n'arrivera pas. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si cela se produisait, ajoute-t-il. Et du point de vue israélien, la réaction a été rapide. Le bureau du Premier ministre a publié en fin d'après-midi un communiqué en anglais. Benjamin Netanyahou a ordonné, indique ce texte, de ne pas faire avancer les deux projets de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne en Cisjordanie. Et il y a quelques heures, un nouveau visiteur américain est arrivé en Israël pour surveiller de près la mise en œuvre du plan de paix. Il s'agit de Marco Rubio, le secrétaire d'État.
Merci Michel Paul. Et à Gaza, l'aide humanitaire reste insuffisante. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui assure que la trêve n'a pas permis d'améliorer la situation, sur place, cette situation reste catastrophique. Si l'accord négocié par le président américain Donald Trump prévoit l'entrée de 600 camions d'aide alimentaire par jour, l'OMS assure qu'actuellement seuls 200 à 300 camions peuvent réellement rentrer. Le directeur général de l'organisation estime que le coût total de la reconstruction du système de santé de Gaza s'élèvera à au moins 7 milliards de dollars. La météo très agitée encore cet après-midi à cause de la tempête Benjamin. À cette heure, 6 départements sont encore en vigilance orange au vent violent. La Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Des intempéries qui ont d'ailleurs causé la mort d'une personne en Haute-Corse. Demain matin, c'est justement la Haute-Corse qui sera encore concernée par cette vigilance. Globalement, le calme va revenir sur l'ensemble du pays demain matin. Encore quelques légères pluies gris sur la façade atlantique, le littoral de la Manche. Il y aura du soleil sur le pourtour méditerranéen, quelques nuages en région Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis côté température, il fera minimum 6 degrés et jusqu'à 19 degrés. Dans un instant, notre rendez-vous consacré aux élections municipales.
France Culture, élections municipales 2026. Maire, pourquoi faire ?
Huitième épisode de notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux enjeux des élections municipales de mars prochain. On s'intéresse ce soir aux violences qui visent les élus locaux. L'an dernier, plus de 2500 faits de violence ou d'incivilité à leur encontre ont été recensés. Les maires et les conseillers municipaux en sont les principales victimes à 82%. Des coups, des insultes ou des menaces de mort qui poussent certains élus à démissionner. Face à ce phénomène, l'État a réagi avec une série de mesures. Il propose par exemple aux élus de s'équiper d'un bouton d'appel d'urgence. Jeanne Serin, bonsoir.
Bonsoir.
Ce dispositif a été récemment mis en place en Seine-Saint-Denis auprès de deux élus que vous avez rencontrés.
Il balaye sans cesse du regard la place sur laquelle nous nous sommes donné rendez-vous, face à l'hôtel de ville de Duny, commune de 11 000 habitants en Seine-Saint-Denis, où Faouzi Ghellil est élu d'opposition.
Depuis quelques temps, on recevait un certain nombre de menaces, de courriers anonymes. J'avais déjà dit à mes collègues et à mes proches collaborateurs que je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose.
On est le 28 février, il est environ 18h30 quand l'élu socialiste rentre chez lui. Il sort de sa voiture et aperçoit deux hommes cagoulés au bout de sa rue.
En arrivant devant la porte de chez moi, je me retourne et c'est là que je vois ces deux individus qui accélèrent et qui viennent à fond sur moi. Et c'est là qu'ils me tombent dessus et puis ils m'assènent des coups, ils me tabassent devant chez moi de manière très violente, quoi. Coup de pied, coup de poing. Je suis par terre et ils continuent à me frapper. Moi, j'arrive à rentrer à la maison. Je les vois qui s'arrêtent à côté de mon véhicule. Ils l'ont aspergé d'essence et ils ont brûlé mon véhicule.
L'élu dépose plainte. Deux hommes sont retrouvés. Le premier est condamné et placé en détention. Le second, relâché, faute de preuves. Une enquête est toujours en cours.
Mes agresseurs sont toujours en liberté. Et, ouais, je ne vous cache pas que quand je rentre à la maison, je fais le tour, je regarde à droite, à gauche. Je ne suis pas à l'abri qu'il y ait une récidive.
Pour l'aider, la préfecture lui propose alors un nouveau dispositif en cours d'expérimentation. Un petit bouton d'appel d'urgence que Faouzi Ghellil accepte.
Maintenant, je l'ai toujours dans ma poche. C'est un tout petit bouton, ça ne paye pas de mine. Si demain, vous sentez une agression, et vous appuyez deux fois sur le bouton et ça envoie un signal avec une application qui s'appelle Mon Shérif, avec une géolocalisation.
Un coup de pouce qui ne rassure pas entièrement l'élu.
C'est déjà un début, mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On approche des élections municipales 2026. Et la tension va monter. C'est juste un bouton où je dois appuyer. Mais si la personne vient armée, elle me tire dessus, c'est fini pour moi. Je n'ai pas le temps d'appuyer, j'ai rien le temps de faire. Peut-être que ce sera trop tard.
Et qui ne règle pas l'inquiétude de ses proches.
Je vais pas vous mentir, mes enfants ont été traumatisés. Ma fille, elle veut pas rester toute seule à la maison. Mon fils, si on est tous à l'étage, il veut pas rester tout seul en bas. Je vous cache pas que dans ma famille, ma mère, mes frères et sœurs ont souhaité que j'arrête. Et aujourd'hui, non. Encore plus qu'hier, j'ai envie de m'investir encore plus.
Ce qui est arrivé à Faouzi Ghellil a en tout cas été un déclencheur pour d'autres élus autour de lui. À commencer par le maire de Stain, Azzedine Taibi.
Il y a eu un avant et un après. Et là, je peux vous dire, j'ai eu très très peur. Bah, je me dis, ce sera qui le prochain ?
Il a donc lui aussi décidé de s'équiper d'un bouton d'urgence.
J'ai toujours avec moi, je l'ai avec moi. Franchement, ça, on m'aurait fait la proposition il y a quelques années, j'aurais dit non, hors de question. Moi qui milite pour une société plus fraternelle, pour une société autonome, jamais j'aurais imaginé me promener avec ça.
Et d'ailleurs, il n'arrive pas encore totalement à s'y faire.
Je l'avais avec moi la dernière fois, c'était début juillet, je crois le 8 juillet, quand une personne est venue devant chez moi et m'a insulté. Je l'avais avec moi, mais j'étais tellement surpris par la rapidité de la violence des propos que j'ai même pas eu le temps de le sortir. Il était dans ma poche et j'ai même pas pensé.
Élu en 2014, l'élu communiste a vu cette violence grandir, des lettres d'insultes, de menaces. Avant, il n'en recevait jamais, mais malgré tout, il se dit encore plus déterminé à poursuivre son action.
Je ne laisserai rien passer. Chaque courrier, même anonyme, chaque parole violente, je ne laisserai rien passer, je dépose plainte. Mais en même temps, je suis inquiet parce que quand j'échange avec les maires, je vois l'évolution de plus en plus. Les maires ont déjà baissé les bras en disant « j'arrête tout, c'est pas possible ». On est face à une société qui est malade, on est face à une république qui va mal. Parce que quand on s'attaque à un maire, à un élu, on s'attaque à la République.
Après plusieurs mois d'expérimentation, les boutons d'appel sont en train d'être généralisés sur tout le territoire pour que chaque département en dispose de 20 d'ici la fin de l'année.
Quelles sont donc les conséquences de ces menaces qui pèsent sur les élus? Pour décrypter ce phénomène, Jeanne Serin, vous vous êtes entretenue avec Hélène Debièvre. Elle est directrice du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, un organisme créé en 2023 et qui dépend du ministère de l'Intérieur.
2501 faits de violence ou d'incivilité ont été enregistrés en 2024. Est-ce qu'on est face à une explosion des violences qui visent les élus ces dernières années ou pas du tout?
Alors, on a été dans une augmentation. En revanche, le chiffre de 2500 qui date de fin 2024 nous a permis de constater une baisse de 9,5% par rapport à l'année précédente, sachant que on reste quand même dans un volume qui est un volume important, préoccupant et qui traduit concrètement entre 30 et 40 dépôts de plaintes par semaine. Ce phénomène n'est pas nouveau en tant que tel parce que des incivilités, des difficultés entre le maire et ses administrés, ça a toujours un peu existé. En revanche, ce qui est plus nouveau, c'est le chemin de la violence est emprunté de façon plus directe, presque plus systématique. C'est ça qui traduit aussi une partie, un climat de tension et un peu de banalisation de la violence dans l'ensemble de la société.
Et de quel type de violence parle-t-on?
Le type d'atteinte, le type de menace, de violence sont majoritairement des menaces et des outrages. Les violences physiques restent minoritaires, mais on a quand même un pourcentage de violences physiques. En revanche, on n'a pas du tout de spectre particulier en matière de territoire, c'est-à-dire que tout le territoire est concerné, à la fois les zones urbaines, périurbaines, mais aussi les zones rurales. On est dans un phénomène assez généralisé à l'échelle du territoire.
Pourquoi on s'attaque aux maires? Pourquoi ce sont les élus les plus touchés par ces violences?
Alors, ce sont les élus les plus touchés parce que, en matière de volume, hein, on a 500 000 élus sur le territoire national, mais on a 35 000 maires. Donc, en matière de volume, ils sont effectivement majoritairement représentés, mais surtout, ils sont davantage visés parce qu'ils sont beaucoup plus visibles et identifiables, j'ai envie de dire, par les administrés, beaucoup plus qu'un président de conseil départemental ou qu'un conseiller régional.
Alors l'État s'engage pour protéger davantage les maires et a développé différents dispositifs ces dernières années. Est-ce que vous pouvez justement nous parler des dispositifs existants aujourd'hui que les maires peuvent mobiliser pour assurer davantage leur protection?
Alors, c'est ce qu'on a appelé le pack sécurité élu, qui est en fait une forme de boîte à outils, notamment le système alarme élu, c'est-à-dire qu'un élu s'identifie avec son numéro de téléphone et lorsqu'il joint la brigade ou le commissariat, il est tout de suite identifié en tant qu'élu. On a les équipes des négociateurs à la fois du GIGN et du RAID qui organisent des formations à la gestion des incivilités, c'est-à-dire à la désescalade des conflits. On a aussi réalisé un travail autour des atteintes cyber. Il peut aussi mobiliser des boutons d'appel pour pouvoir être en capacité de saisir un certain nombre de ses contacts proches s'il se trouve dans une situation de danger.
Et puis du point de vue législatif, là aussi les textes ont évolué avec le vote le 21 mars 2024 de la loi pour la protection des élus. Est-ce que ce texte a permis aussi de produire des avancées?
Alors absolument, elle a permis d'augmenter le type de réponse judiciaire pour pouvoir se dire on s'attaque à un élu, donc on s'attaque aux mêmes catégories de personnes que si c'était des représentants de la force publique. Donc cette loi, oui, elle marque des pas importants pour pouvoir être davantage en phase avec l'évolution de ces faits.
Est-ce que cette violence constitue un motif d'abandon pour les maires de leur fonction d'élu, de démission ou du moins de non-représentation?
Alors aujourd'hui, en données générales, en données macro, on n'a pas de corrélation directe entre l'évolution du volume effectivement des élus et puis des démissions potentielles avec cette situation. Il y a une étude récente du Cevipof qui positionne les violences pas au premier chef. En revanche, l'impact individuel peut être important et on a aussi dans le cadre du plan national de prévention contre les violences aux élus mis en place un partenariat avec la Fédération France Victimes pour créer un numéro dédié et on a une possibilité
soi-même et ou avec ses proches, de bénéficier d'un suivi. C'est volontaire, c'est anonyme et c'est gratuit, d'un suivi psychologique. Donc oui, ça n'est pas anodin de subir ce type de fait, mais aujourd'hui, il y a une vraie capacité des uns et des autres et des élus à refuser l'impunité et à se dire qu'il n'y a pas de raison d'exercer son mandat en se sentant en insécurité.
Il faut aussi noter que parmi les maires qui ne souhaitent pas se représenter en 2026, près de 20% assurent que c'est à cause d'un sentiment d'insécurité. Ce sont les résultats d'une enquête du CEVIPOF publiée en avril dernier. Maire, pourquoi faire ? Un rendez-vous sur France Culture tous les jeudis à 18h15 et à retrouver également sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.